Hayne Merrington, bonjour.
Bonjour.
Vous venez d'Australie?
Oui, je suis australienne.
Et vous êtes artiste peintre?
Oui, j'espère. Oui. Donc, c'est ma première passion, la peinture. J'ai toujours fait de la peinture. J'ai fait énormément de différents boulots pendant ma vie et j'ai toujours fait de la peinture. Voilà.
Qu'est-ce qui nous vaut l'honneur de votre visite en France?
C'est en fait parce que j'écris une thèse. Et j'y suis là pour faire des recherches sur l'artiste sur lequel j'écris. Et aussi, je voulais voir des tableaux originaux, donc et voir un peu plus l'histoire de l'art pour de vrai, au lieu de voir des reproductions. Donc vivre un peu la vie française, quoi. Donc.
Par rapport à l'Australie, c'est très différent la culture, notamment au niveau des arts plastiques, au niveau des peintres anciens. Comment s'est vécu le fait que la France soit un vieux pays, dans un vieux continent?
Oui, c'est en fait c'est très différent. J'ai l'impression qu'en fait que l'art en France c'est plutôt comme une ressource historique que vraiment quelque chose de très vivant. En fait, il y a beaucoup d'artistes, mais c'est je ne sais pas si c'est le poids de l'histoire ou quoi, mais en fait c'est le poids de l'histoire qui nous frappe quand on vient de notre pays, en fait.
Vous voulez dire que les artistes français vivent sur leurs acquis?
Non, pas forcément. En fait, c'est peut-être le poids de l'histoire. Il y a énormément de pression, je crois, sur les artistes français et donc, c'est peut-être un peu difficile d'avoir un aperçu qui n'est pas serré par ça, je sais pas. Donc.
En même temps, dans l'art contemporain, on voit quand même des formes qui sont très différentes depuis 30, 40 ans. Et j'allais dire que la peinture académique, traditionnelle, entre guillemets, française, a complètement disparu de la préoccupation de beaucoup d'artistes et même de certains publics qui recherchent la nouveauté.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, c'est peut-être un peu naïf de ma part de retourner à la peinture, mais en fait, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont partie faites dans la peinture. En fait, je voulais un peu relier ma pratique avec l'histoire de l'art française. Parce que je crois que la peinture a toujours une valeur. Et on peut faire beaucoup de choses très intéressantes dans différents domaines avec les nouvelles médias, mais parfois je crois que c'est plus facile de faire quelque chose avec différents médias que de retourner à un vieux truc comme la peinture.
Quand vous dites le poids de l'histoire, est-ce que ça veut dire que c'est difficile d'aborder des choses contemporaines sans risquer de ne pas être à la hauteur, c'est ça?
Qu'est-ce qu'on peut dire? En fait, je crois que peut-être la difficulté pour les artistes français, c'est que en fait, la vie en France est vraiment toujours liée à. En fait, pour moi, c'est toujours lié au passé. Et les villes sont pas très modernes, en fait. Je crois que les artistes français veulent vraiment être modernes. Et c'est difficile à faire quand la vie est toujours très traditionnelle, je sais pas exactement comment le dire, mais c'est pas moderne dans le sens que moi je comprends la modernité en fait. Donc.
C'est-à-dire qu'effectivement, c'est difficile de tout raser pour construire du neuf, complètement neuf.
Oui, c'est peut-être ça. Oui, c'est peut-être ça.
Donc, dans ces circonstances, l'Australie est-elle un terrain vierge sur lequel on peut construire ce qu'on veut artistiquement?
Non, je ne suis pas vraiment une vierge, mais. c'est en fait qu'on a, je crois qu'on a beaucoup de chance parce qu'on a beaucoup d'influence des États-Unis, on a beaucoup d'influence de l'Europe parce qu'il y a beaucoup d'immigrés, il y a des immigrés qui viennent de partout, donc il y a beaucoup de choses qui sont présentes simultanément, donc on a un peu le luxe de pouvoir choisir différentes choses, donc c'est une liberté et en fait on est européen mais pas vraiment, donc on a un peu plus de liberté que les artistes français, je crois.
Au-delà de la France, des États-Unis, donc aussi de l'Australie, quel pays vous jugez intéressant artistiquement ?
En fait, moi, je suis pas capable de juger l'intérêt artistique. C'est juste, en tant qu'artiste, je fais ce que je veux, en fait. Donc, c'est pas moi qui va dire qu'un autre pays est plus intéressant que... bien que je viens de le dire, mais je me sens pas qualifiée pour juger les autres pays parce qu'en fait j'ai pas tellement voyagé en Europe, en fait pas encore, donc je peux pas vraiment donner un avis sur le reste de l'Europe. Donc
au-delà de l'Europe, qu'est-ce que vous pensez par exemple de la Chine ou du Japon?
Moi, je connais pas du tout la Chine. J'ai passé une journée au Japon que j'ai trouvé très intéressant. Mais c'est pas assez pour vraiment avoir un avis. Donc, tout ce que je sais de la Chine, c'est qu'il y a en fait c'est des immigrés australiens parce qu'il y a beaucoup de Chinois.
Beaucoup d'étudiants chinois aussi.
Oui, énormément, qui viennent pour apprendre l'anglais et donc parce que c'est assez proche. Et
les universités sont bien cotées, je crois.
Bien cotées, oui, je crois.
Chères aussi.
Oui, c'est cher, en fait, l'éducation en Australie, mais en fait, cela dit, je ne sais pas si vous connaissez comment ça marche, mais en fait, on doit prendre un prêt pour payer les études. Et quand on gagne le salaire moyen, on commence à rembourser. Donc, ce n'est pas avant ce moment où on commence à rembourser. Donc, c'est comme ça que ça marche. Et moi, je crois que si on doit payer, c'est une bonne façon de le faire.
Alors, dans ces universités, est-ce que la culture occupe une place, comme ici à Lille 3 ou à Lille 1 ou dans d'autres lieux, une place, j'allais dire, quand même centrale?
Oui, moi je crois. En fait, les universités, normalement, elles ont une galerie, elles ont en fait, il y a souvent des concerts, il y a des groupes qui viennent jouer, il y a des choses qu'on attend.
Finalement, un étudiant australien qui vient ici n'est pas trop dépaysé, s'il parle un peu le français.
Moi, je ne sais pas, peut-être... ça dépend ce qu'on attendait avant de venir, je crois. Et si on avait des liens avant pour pouvoir trouver les repères facilement. Donc, moi, j'étais très dépaysée en arrivant. Surtout... parce que c'était l'hiver, parce que j'étais à Roubaix, parce que c'était complètement différent de l'Australie, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choses que... En fait, j'étais très dépaysée, mais ça va maintenant, voilà. Donc.
Dépaysée, mais pas trop perturbée, vous êtes adaptée assez facilement?
Je ne sais pas, en fait.
Au-delà du temps qu'il faisait, qu'est-ce qui vous apparaît paru le plus dur à supporter ou à organiser ou pour vous adapter?
En fait, l'une des choses qui m'a frappée, c'était la formalité des Français. Je n'attendais pas qu'ils soient aussi formels parce qu'en fait, en Australie, on est très, très informel. En fait, par exemple, si moi, je vais au médecin, la réceptionniste, elle m'appelle par mon prénom. Et donc, là, c'est toujours madame, monsieur. Et ça, je ne savais pas comment aborder ce genre de choses-là. Et... en fait, donc Il y avait d'autres choses aussi, mais c'était la plus importante.
Est-ce que ça a un sens encore ou dans votre esprit quand on parle de French Touch?
Oui, le French Touch, c'est... Qu'est-ce qu'on veut dire? Bon, c'est toujours un truc qui est très élégant, très à la mode, en fait, très... Bon, juste élégant, disons, élégant.
Mais ça, c'est dans l'image, mais confronté à la réalité, quand vous venez, il y a un décalage?
Oui, un décalage, je suppose. En fait, bon, c'est difficile à dire, mais... comment est-ce que je peux dire? Je suppose que... j'avais, en fait, le toucher, c'était pas aussi léger que j'avais attendu, si on peut dire comme ça. C'est pas, je sais pas que ce que c'est peut-être le poids de l'histoire encore, mais je sais pas.
Quand on parle de l'Australie, on parle d'un pays, pour autant, il n'y a qu'un peuple en Australie?
Non, il y a énormément de peuples, en fait. Il y a les Aborigènes, il y a les Italiens, il y a les Grecs qui sont venus pendant les années 50, il y a les Vietnamiens qui sont venus pendant les années 70, il y a les Thaïlandais, il y a les Coréens, il y a les Japonais, il y a les Indiens qui sont venus pendant les années 80, je crois. Et plus... Et avant, et aussi il y a les Chinois qui sont là depuis 100 ans, qui venaient pour la première pour les premières recherches de l'or quand il y avait le Gold Rush. Donc il y a énormément de différents mondes, mais en fait ils vivent assez bien ensemble, je crois. Donc assez bien. Donc.
Comment on est citoyen en Australie par rapport à la façon dont on peut l'être en France?
Citoyen. Citoyen. En fait, qu'est-ce qu'on peut dire? Peut-être que citoyen, ça implique... je crois que les Français sont un peu plus militants pour la politique. Mais en fait, en Australie, on n'a pas besoin d'être militant parce qu'on est obligé de voter, donc on doit avoir un avis, en fait. Tout le monde doit voter parce que si on ne vote pas, on reçoit un PV. Donc on doit payer une amende. En Australie, pour faire les gens voter, il faut les inciter à voter. Donc ça, c'est pour ça que les Français sont beaucoup plus politisés, je crois. Citoyens. Les Australiens sont assez laissés faire. Ils disent toujours pourquoi pas. Si on leur demande à faire quelque chose, ils disent pourquoi pas. Je ne vois pas une raison pour pas le faire. Donc ils sont assez décontractés et assez. Ils font des choses assez volontairement, je crois. Bon, ça c'est les plus grandes différences, je crois.
Vous parliez de nombreuses communautés qui sont en Australie. Est-ce que chacune a accès égal à la culture et est-ce que chacune a la possibilité d'exprimer son art, par exemple, s'ils sont artistes, facilement, de la même manière?
Je ne sais pas, mais en fait, je crois qu'il n'y a pas vraiment des barrières contre... certaines communautés. Oui, je crois qu'ils peuvent s'exprimer assez ouvertement. En fait, pendant les années 80, on a eu un premier ministre qui s'appelait Keating, qui était le maître des insultes, qui savait, en fait, il savait insulter tout le monde. En fait, il n'était pas élu, le premier ministre précédent a démissionné, donc lui, il a pris sa place. Lui, il voulait faire de l'Australie... il voulait que l'Australie soit partie de l'Asie au lieu d'être européen. Et avant ça, on avait plus appuyé sur la culture européenne que... asiatique. Donc, à ce moment-là, il y a un grand changement de politique. Et donc, on est devenu asiatique plutôt qu'européen. Et c'est à ce moment-là où ils ont créé le SBS, le système de... en fait, il y a une station de télévision, une chaîne de télévision qui a été créée à ce moment, et une station de radio. Et donc, c'est devenu beaucoup plus multiculturel de ce moment-là. Donc, moi, je crois qu'ils peuvent s'exprimer. Mais en fait, moi, je fais partie de ces communautés. Donc, je ne peux pas vraiment le dire. Mais il y a beaucoup d'artistes qui viennent de différentes communautés qui exposent dans des galeries de l'État.
Et c'est facile pour des artistes australiens, par aborigènes, de venir exposer en Europe ou aux États-Unis ou ailleurs?
Venir exposer en Australie... en Europe en fait, ça, c'est une autre chose parce que je ne suis pas aborigène. Je ne peux pas dire si c'est facile, mais je crois que ce serait très difficile pour eux de s'extraire de leur... de leur milieu, de leur pays, de leur environnement et de venir en Europe. Mais je sais qu'il y a certains artistes qui l'ont fait et il y a certaines galeries qui vendent des œuvres d'artistes aborigènes. Mais ça ne veut pas dire qu'eux, ils sont venus pour exposer eux-mêmes.
Lynn Merrington, vous allez nous parler de votre travail.
Ouais, bon. Voilà, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que j'adore la peinture. J'aime bien regarder le temps qui change. C'est peut-être juste une excuse pour me mettre quelque part et regarder le temps qui change. J'avais commencé à travailler à cette façon-là après avoir déménagé de l'Australie Est à l'Australie occidentale. En fait, j'étais à Sydney, j'ai déménagé à Perth. Et là, j'étais face à l'immensité du paysage de l'Australie occidentale. Et donc, j'avais commencé à faire des petits échantillons de ce paysage et de la lumière qui changeait là-bas. Et donc, je fais des petites tranches de temps. Et j'espère... montrer un peu l'échelle de la nature et un peu l'échelle de l'humanité à côté.
Donc, pour être plus concret, peut-être, vous avez un certain nombre de tableaux qui sont basés sur un certain principe avec des bandes verticales qui représentent chacune une partie d'un espace et un moment de la journée.
Oui, c'est ça.
Et donc, effectivement, selon les moments, les ciels changent, la couleur de la mer change, les impressions... Alors, justement, au niveau des impressions, quand on est face à un tableau qui est d'un seul moment, on a une impression qui est peut-être précise. Quand on a différents moments de la journée, on se perd un peu, non?
Oui, peut-être. Je ne sais pas ce que le spectateur voit. Donc, peut-être que vous êtes perdu, je ne sais pas.
On peut choisir son angle de vue, le moment qu'on préfère.
Oui, bien sûr. Bien sûr.
Donc ce principe-là, c'est un principe qui vous est propre? Vous l'avez déjà vu ailleurs ou c'est, j'allais dire, votre touche personnelle?
Non, c'est ma touche personnelle.
Donc les thèmes qui vous inspirent sont la nature, les paysages?
Oui, la nature, les paysages, en fait, et aussi le climat, parce que en Australie occidentale, quand j'y suis allée il y a la première fois, il y a combien d'années? Il y a presque 15 années maintenant, les températures maximales étaient à peu près 38 degrés. Et maintenant, c'est la dernière fois que j'y suis allée. Le 26 novembre, il était 44 degrés. Donc, il y a des gens qui ne croient pas que le surchauffement de la planète, ça existe, mais je crois que ça existe et c'est très important. Je crois que ça me fait peur, en fait. Donc, c'est pas forcément ça que je montre dans mes tableaux, mais je crois que c'est très important de regarder la nature et d'avoir un lien personnel avec la nature. Et donc, ça, je crois que j'ai eu la chance parce que j'ai appris ça dès un très jeune âge parce que j'ai fait beaucoup de navigation. J'ai passé énormément de temps sur des bateaux, en fait, pas exactement au large, mais dans un bateau. Donc, j'ai vu ce que c'est la nature. Donc, j'ai eu vraiment de la chance. Voilà.
Ling Merrington, je vous remercie beaucoup.
D'accord, merci beaucoup à vous.